Radio Prague, les informations.
Près de 3500 médecins tchèques ont confirmé leur démission. Ce dimanche, le premier ministre bavarois Horst Seehofer a ouvert sa visite à Prague. Andrej Bank s'est classé cinquième en slalom géant à Alta Badia. À ce jour, près de 3500 médecins tchèques ont confirmé leur démission dans le cadre de l'initiative Merci, on s'en va qui avait été lancée par les syndicats. Martin Engel, président du club syndical des médecins, l'a confirmé ce dimanche dans un débat télévisé. Le ministre de la Santé publique, Lars Heger, s'attend cependant à un départ de 700 seulement d'entre eux. Des remaniements au sein des directions du Parti civique démocrate et du Parti social-démocrate ont profité non seulement à ces deux principaux partis de l'échiquier politique, mais aussi à toute la politique et ont amélioré la culture politique du pays. Le chef de l'État, Václav Klaus, l'a déclaré ci dimanche pour la chaîne de télévision privée Prima. Ce dimanche, Horst Seehofer ouvre la première visite officielle d'un premier ministre bavarois en Tchéquie. En cette occasion historique, il sera notamment reçu ce lundi par le chef du gouvernement Petr Nečas. Un dîner en son honneur est offert ce dimanche soir par le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg. Quatre transporteurs blindés Pandure 2 ont été embarqués à bord de l'avion en N-124 avant d'être transportés en Afghanistan. De Kaboul, ils seront acheminés vers la base de Chang dans la province de Logar, pour renforcer la technique utilisée par l'équipe tchèque de reconstruction de province. Selon Vlastimil Picek, chef de l'état-major, il s'agit d'une sorte de cadeau de Noël qui servira à renforcer la sécurité des militaires. L'affaire de corruption autour du ministre Drobil secoue la coalition gouvernementale. Selon Christina Kocsi du Parti Affaires Publiques, il y a lieu de parler désormais d'une crise gouvernementale. Les représentants des deux autres partis de la coalition ODS et Top 09, ainsi que le président Václav Klaus, estiment que la situation n'est pas si grave. La réunion des trois partis de la coalition gouvernementale, qui a été interrompue vendredi, se poursuit ce dimanche après-midi. Le Tchèque Andrej Bank, 30 ans, a remporté un beau succès en slalom géant à Alta Badia en se classant cinquième derrière le Suisse Didier Kuch. Sixième après la première manche, le skieur tchèque a signé ainsi son plus grand succès dans cette discipline. C'est effectivement pour la première fois qu'il figure parmi les 10 meilleurs skieurs du géant. À Val d'Isère, il y a une semaine, Andrej Bank s'est classé septième en slalom. Météo, un ciel à moitié couvert et des flocons de neige marqueront la météo ce lundi, jour de fête de toutes les Dagmar selon le calendrier local. Il fera moins froid, les températures diurnes se situeront légèrement au-dessus ou autour de zéro. C'était le journal présenté par Alena Gebertra.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle. Je vous propose de plonger à l'occasion de deux émissions dans le monde fantastique, nébuleux, visionnaire de l'art brut. Bruno Decharme est collectionneur d'art brut, fondateur de l'association ABCD à Paris, qui s'attache à faire la promotion de ses créateurs hors du commun. Depuis de nombreuses années, il collabore également avec la République tchèque, où il a déniché des artistes tels que Zdeněk Košek ou encore Anna Zemánková, grand-mère de la spécialiste tchèque de l'art brut Terezie Zemánková. En novembre dernier, il a présenté à l'Institut français de Prague son film Rouge ciel, l'occasion d'évoquer avec Bruno Decharme ce documentaire, mais bien plus encore.
Alors, le Rouge ciel, c'est donc le film, c'est un film qui est consacré à l'art brut. Je pense que c'est le premier documentaire de long métrage qui essaye un petit peu de cerner le concept d'art brut. C'est un film qui est en fait axé essentiellement sur un certain nombre d'artistes, puisque ça me paraissait important de parler de l'art brut à travers des productions. Donc il y a à peu près une dizaine d'artistes qui font l'objet de petits portraits comme ça, qui vont entre 4 et 10 minutes. Et entre ces portraits, il y a un certain nombre de personnes qui sont des amateurs, des historiens de l'art, des psychanalystes, qui donnent un petit peu leur point de vue sur l'art brut, et également toute des séquences, puisqu'elles se dispatchent pendant tout le film, sur l'histoire de l'art brut traitée en animation, presque comme des dessins animés, pour essayer un petit peu de donner un peu de légèreté au sujet qui est quand même... Déjà un petit peu fort, si je peux dire. Touffu, voilà. Mais la structure du film est vraiment comme un tricotage, c'est-à-dire que de là, j'ai pas forcément envie que le spectateur retienne une espèce de théorie, comme s'il y avait une théorie de l'art brut, qui est évidemment qui a pas de sens pour ce sujet-là, mais au contraire, une espèce de maillage de différents territoires qui, mis ensemble, donne un espèce de panorama de ce qu'on pourrait qualifier de l'art brut.
Qu'est-ce qui se cache derrière cet oxymore rouge ciel ?
Alors, il se cache tout simplement rouge ciel. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une artiste très connue dans l'art brut qui s'appelle Aloïse Korba. Et Aloïse Korba a fait une production extraordinaire, très très colorée, avec des princesses, des princes. Enfin, c'est vraiment une œuvre tout à fait majeure de l'art brut. Et dans ses dessins, elle a inscrit souvent des phrases un peu énigmatiques. Et dans une de ces phrases, il y avait une expression « rouge ciel ». Alors, je trouve que c'est intéressant pour un tas de raisons. D'abord, et puis, une de ces remarques qu'elle faisait, c'est qu'elle disait toujours « le rouge, c'est bon pour les schizophrènes ». Et puis rouge ciel, parce qu'effectivement, c'est l'invention probablement, je ne sais pas, j'imagine pour elle, comme il y a bleu, il y a noir anthracite, ou gris anthracite, il y a bleu outre-mer, enfin voilà. Donc c'est un mot qui n'existe pas, et qui en même temps, je trouve, est fort, parce que d'abord parce qu'il n'existe pas, et que surtout, ça exprime bien en quoi probablement ces artistes de l'art brut sont inspirés de voix qui viennent d'au-dessus probablement, et donc il y a une espèce d'enflammation ou d'incandescence du ciel.
Alors, pour rappeler un petit peu ce qu'est l'art brut, puisque les auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est l'art brut, et puis c'est une définition assez compliquée, il faut rappeler que le terme vient du Buffet, qui a utilisé donc ce terme art brut pour désigner en gros les créateurs à la marge, hors normes. Mais c'est vrai que la définition peut être beaucoup plus large. Quelle serait votre définition de l'art brut et est-ce que ce terme est approprié ?
Oui, alors c'est effectivement une définition qui est extrêmement complexe parce que tout simplement parce que le sujet de l'art brut lui-même est plein de paradoxes, de contradictions, parce qu'on est essentiellement dans le domaine où s'exprime de la manière la plus sauvage, je dirais, ce que l'être humain a de plus profond. Pourquoi est-ce que c'est sauvage? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça justement brut? C'est qu'il n'y a pas de... Ce sont des œuvres qui sont produites par des gens qui sont radicalement, mais vraiment radicalement étrangers à la culture des beaux-arts, je dis bien la culture des beaux-arts, des gens qui sont dans une marge, enfin ce que la société met en termes de marge, ce sont des gens qui ont eu probablement sur un plan sociologique et personnel des difficultés très importantes d'adaptation au monde, mais qui, de par probablement cette histoire personnelle, les a conduits à réinventer le monde. Donc, pourquoi brut ? Parce que je pense que c'est effectivement brut de l'inconscient. C'est vraiment l'expression de l'inconscient. C'est comment est-ce que l'homme, au-delà de ses souffrances, au-delà de son histoire, est capable de reproduire et de sauver probablement, de renaître d'épreuves les plus douloureuses de la vie. Et sans utiliser les moindres références à l'art, les moindres références à la culture, ou du moins, s'ils utilisent des références à la culture, parce que bien entendu, il y a une référence à la culture, c'est en faisant un usage extrêmement personnel, et jamais en s'impliquant dans une histoire de l'art, puisque ça leur est totalement étranger. Voilà. Donc, on a souvent aussi parlé de l'art des fous. Alors, pourquoi est-ce que Dubuffet a préféré l'art brut à l'art des fous? C'est parce que, pour lui, et je pense qu'il a raison, c'est de mettre tout simplement un espèce de diagnostic de maladie dans ses productions, ramener ses œuvres essentiellement justement à la maladie. Or, ce qu'il a essayé de faire en parlant d'art brut, c'est de sortir les œuvres des malades mentaux pour dire tout simplement, regardez, ces œuvres sont extrêmement inventives, probablement beaucoup plus inventives pour la plupart que l'art qu'on connaît, académique ou qu'on peut identifier comme tel, et donc de le faire sortir du cadre de l'hôpital psychiatrique ou de la marge pour les mettre au grand jour. D'où la volonté de sa part de surtout ne pas se référer à la maladie mentale. Mais il est vrai aussi que si on prend l'histoire personnelle de chacun de ces artistes, pour 80%, ce sont des gens qui ont des formes de psychose, donc qui peuvent être des schizophrénies, enfin des choses comme ça. Mais voilà, quand on travaille sur ce sujet, on essaye vraiment de ne pas utiliser cet historique médical, encore que l'étude de la psychose dans ses fonctionnements nous permette de comprendre en quoi cette grammaire et ce vocabulaire qu'ils inventent est extrêmement particulier.
Puis c'est une manière de pas stigmatiser non plus, parce que ça voudrait dire qu'on les met en gros de nouveau dans une case et à la marge définitivement.
Exactement, et c'est pour ça que cette idée de marge, je suis toujours un peu prudent. La marge, c'est parce que c'est nous qui les mettons à la marge, mais pour eux, il n'y a pas de marge. Ils font partie de l'histoire de l'humanité, ils font l'histoire de la pensée dans une richesse extrême et probablement, et ça on le voit à travers le Rouge Ciel, à travers tous ces gens, c'est des gens qui sont des grands visionnaires, vraiment des gens qui ont une acuité au monde, probablement on n'a pas nous. Donc la marge, quelque part, leur richesse intellectuelle, leur richesse de pensée, la complexité qu'ils sont capables d'exprimer du monde est beaucoup plus riche d'enseignements, probablement, que ce que nous, on est capable de produire. Mais, effectivement, il y a une certaine différence.
Pour revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure, un peu plus tôt, ça veut dire que leur création, l'art qu'ils produisent, aurait quelque chose de salvateur ?
Alors, oui, je pense qu'il y a quelque chose de salvateur, déjà pour eux. C'est que, alors là, forcément, on est obligé, c'est pour ça que le va-et-vient avec la, non pas la maladie, parce que, encore une fois, je pense que la psychose n'est pas une maladie, c'est un mode de fonctionnement psychologique très particulier, qui effectivement a une part de douleur, donc forcément on l'amène sur le terrain médical, parce qu'il faut l'aider, le soigner, du moins essayer de le contenir, mais sur le plan créatif et sur le plan de la pensée, à un mode de fonctionnement tellement particulier que on observe effectivement des phases qu'on peut appeler délirantes, bon moi j'appellerais plutôt des phases extrêmement d'excitation créative, mais qui effectivement s'accompagnent de douleurs extrêmes, parce que c'est effectivement des gens qui ont vécu et qui vivent des traversées terribles. Donc probablement au moment de la création, au moment où ils arrivent à exprimer artistiquement leur monde, ce qu'ils ont dans ce qu'ils ressentent, s'il y a une forme de renaissance, probablement d'une autre phase qui est extrêmement noire, extrêmement négative pour eux. Et ça c'est pour eux, c'est dans leur histoire personnelle, mais ça faudrait évidemment les interroger eux, parce que je vois pas pourquoi je parlerais au nom d'eux, et puis chacun a sa propre histoire, mais aussi salvateur pour nous, parce que je pense qu'ils nous enseignent. Et ça c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un enseignement extraordinaire du monde, de la vision du monde. Et quand vous entendez parler, par exemple, Zdeněk Koshek, qui est un de ces artistes, c'est complètement fabuleux, enfin je veux dire, c'est un maître à penser ce monsieur. C'est vraiment un maître à penser. Quelque part, il sauve le monde, parce qu'il est capable d'en exprimer la richesse et d'en exprimer la complexité, qui fait qu'il y a un émerveillement. Alors, il y a un émerveillement poétique qu'on ressent, et puis il y a aussi un émerveillement, je dirais presque scientifique, parce que ce qu'il raconte, je pense qu'il y a c'est des gens qui nous donnent accès à une certaine vérité.
Il dévoile finalement une facette du monde que nous-mêmes, nous ne voyons pas parce qu'on ne veut pas le voir, ou peut-être parce qu'on ne peut pas le voir. Oui.
Parce que, bon, par exemple, nous, en ce moment, on est en train de se parler, et du coup, on est capable d'isoler tout ce qui se passe en dehors de notre conversation, parce qu'on est concentré. Justement, on est concentré. Et je pense que eux ont la capacité de capter tout fait signe. Alors, c'est terrible. Parce que c'est très, quand tout fait signe, on est assailli par les signes. Mais en même temps, c'est la capacité de ressentir le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison de catégoriser. Il n'y a pas de raison de diviser en tranches de saucisson. Il n'y a pas de raison de ne pas se dire qu'un bruit d'oiseau ne fait pas signe et ne fait pas sens dans notre vie. Donc nous on réduit, mais on réduit pour vivre, pour être capable de vivre. Alors que effectivement on n'a pas cette capacité là, et donc du coup ça prend une ampleur d'une richesse extraordinaire. avec le côté négatif qu'effectivement c'est terrible à vivre.
Et que c'est des douleurs aussi terribles.
C'est des douleurs terrifiantes. Terrifiantes, parce que quand tout fait signe, bah on sait pas ce qui vous arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bruit d'oiseau, qu'est-ce que c'est que ce bruit de train qui passe au fond de la campagne et que j'entends et qui tout d'un coup signifie pour moi quelque chose.
En gros, c'est une acuité au monde qui est puissance 1000, 2000, 3000,
voilà.
1 million.
Voilà. C'est exactement ça, je pense. Là, c'est bon, ça on rentrerait dans des débats où des psychanalystes pourraient le dire beaucoup mieux que moi, mais je pense que c'est effectivement le ressenti du tout petit enfant. C'est-à-dire que le tout petit enfant, avant de reconnaître le monde, il entend des bruits, ça s'agite autour de lui, tout fait signe et il est encore incapable de se dire d'où ça vient et ce que ça signifie. Probablement, et heureusement pour la plupart, on leur veut du bien, puisqu'on s'en occupe, mais ils savent absolument pas ce que ça signifie. Puis à un moment, dans un stade de leur évolution, ils sont capables de se reconnaître, ils sont capables de hiérarchiser les sons, de hiérarchiser les images qu'ils reçoivent. Alors que ces gens ne sont, voilà. Mais c'est à un moment de l'histoire humaine, et je pense que si l'art brut nous touche aussi, c'est, je pense que ça fait un espèce d'écho à des phases primitives de notre toute petite enfance. Voilà. Bon, c'est très compliqué tout ça.
C'est le réalisateur et collectionneur d'art brut Bruno de Charme. Retrouvez cette interview sur notre site internet au www.radio.cz. Et la suite et la fin de cette interview, c'est dès la semaine prochaine dans Culture sans frontières.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Le professeur Bernard Charpentier du Centre hospitalier et universitaire de Bicêtre de Paris est un des invités de marque que nous avons pu accueillir au cours de cette année dans cette émission. Il est venu à Prague pour un prix qui lui a été accordé pour ses mérites dans le développement du programme de transplantation. Nous vous proposons d'écouter une reprise de cet entretien. Il a d'abord expliqué ce que cette appréciation signifiait pour lui.
Une très haute appréciation pour la raison suivante, c'est que d'abord les fondations de transplantation sont indispensables dans le monde entier pour faire progresser le prélèvement d'organes, les progrès en transplantation et l'amélioration de la vie des gens et des transplantés en particulier. Et la deuxième chose, c'est que cela provient de la République tchèque, très connue en transplantation. Le professeur Vitko est très connu en transplantation et c'est un des leaders européens de transplantation. Donc tout ce qui ressort à la fois de la Fondation de transplantation tchèque et bien sûr dans ce magnifique endroit qui est l'Université Charles a pour moi beaucoup d'importance. En tant qu'ancien président de la Société européenne de transplantation, je suis très fier et très ému de recevoir cette distinction dans le cadre de cette prestigieuse université.
Est-ce pour vous aussi une occasion de porter un regard en arrière sur votre parcours professionnel et voulez-vous éventuellement évoquer certains points forts de ce parcours?
Alors écoutez, c'est effectivement un moment où historiquement, à l'âge que j'ai, je ne suis pas très vieux, mais il y a très longtemps que j'ai consacré ma vie à la transplantation d'organes et la néphrologie. Il y a des choses très positives. Les choses positives, c'est clairement les grands progrès en transplantation qui ont été faits, progrès chirurgicaux, progrès médicaux, progrès technologiques, et en même temps une grande peine que j'ai rappelée dans mon petit discours, qui est que malgré l'effort fait par les professionnels de santé, éventuellement par les gouvernements, nous avons un défaut très important du nombre d'organes potentiellement donnés à des receveurs. Ça existe dans tous les pays du monde. Certains ont des déficits encore plus importants que d'autres. Et que je ne comprends pas, c'est un des points noirs de ma vie professionnelle, je ne comprends pas pourquoi les pays développés dans le monde entier ne sont pas capables d'avoir une suffisance d'organes pour la transplantation. En effet, quand on est mort, cérébralement mort, il ne sert à rien d'aller au ciel avec deux reins, un foie, un cœur, deux poumons. On peut le donner par un geste généreux de solidarité à des gens qui en ont besoin de façon vitale. Et je rappelle qu'en France, il y a entre 300 et 400 morts tous les ans de gens qui n'ont pas pu avoir de transplantation. Donc je ne comprends pas comment la société qui devrait être plus généreuse, plus solidaire, dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde, ne suit pas cette démarche médicale, mais en même temps sociétale et éthique.
Quelle explication avez-vous à cette situation ? À qui la faute ? Aux législateurs ? J'imagine que la situation quand même diffère d'un pays à l'autre.
Non, vous avez raison de poser le problème du législateur. La France a essayé d'adopter une législation extrêmement libérale en 1976 par le consentement présumé. C'est une loi qui dit que toute personne de son vivant, si elle n'a pas fait marque d'opposition au don, sera considérée comme donneuse d'organes après sa mort. Le problème, c'est que la famille, très souvent, n'a pas entendu le message de la personne et donc s'oppose au prélèvement. De ce fait, le prélèvement ne peut pas avoir lieu. Et je le rappelle, en France, nous avons à l'heure actuelle 40% de refus familiaux, alors qu'il n'était que de 5% en 1976. Pourquoi la société bloque devant ce problème dramatique, qui est le problème de la mort ? Je pense que dans nos sociétés modernes, la mort n'est plus au milieu d'un centre de débat. La mort se fait à l'hôpital, la mort est évacuée, elle est à la télévision, elle est dans les médias, elle n'est pas vécue par les familles et en définitive, les gens ne veulent pas parler de leur mort ni de leur maladie. Je crois que c'est un problème de notre société qui n'est pas assez généreuse et assez solidaire.
On parle de la transplantation d'organes. Quel est le domaine ou bien quel est l'organe qui remporte les plus grands succès ces derniers temps?
Alors, de façon très paradoxale, le rein a beaucoup amélioré ses prestations, mais celui qui a fait le plus de progrès, le foie. En effet, la transplantation hépatique, d'une position très balbutiante dans les années 80, maintenant est en régime de croisière avec une augmentation spectaculaire. En plus, s'adressant à des gens jeunes qui ont été contaminés, comme vous le savez, par des virus, le virus de l'hépatite C ou le virus de l'hépatite B, et que donc les résultats sont maintenant spectaculaires, d'autant plus que le foie peut être divisé en deux parties. On peut faire deux transplantations avec un seul foie, et d'autre part, le foie se régénère. Donc c'est un organe qui est assez intéressant sur le plan de la survie des patients. Et celui qui, à l'heure actuelle, stagne le plus, c'est la transplantation cardiaque. Les conditions de prélèvement sont relativement restreintes, l'âge élevé est une contradiction à la transplantation cardiaque et il y a beaucoup de morts de gens qui ne peuvent pas transplanter.
À mon su, vous êtes venu à plusieurs reprises pour le travail à Prague. Quels sont vos liens avec vos collègues de Prague ?
Ils sont très anciens, très excellents et il y a une manière de pratiquer la médecine qui est à peu près identique en France et en République tchèque. C'est une médecine qui n'est pas basée sur les rapports financiers. La médecine tchèque telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est pratiquée, est une médecine qui ressemble beaucoup à la médecine française, dans laquelle les rapports commerciaux ne sont pas aussi puissants que dans le monde anglo-saxon. Donc nous avons une espèce de communauté un peu de pratique médicale avec la République tchèque. Je l'ai rappelé, nous avons eu beaucoup d'interfaces scientifiques avec la République tchèque et avec Prague en particulier dans le passé. Et d'autre part, Depuis de nombreuses années, la République tchèque est inclue maintenant dans un mouvement, j'allais dire, européen. Je souhaite que la République tchèque fasse partie de l'Europe. Je crois que c'est incessamment sous peu, et que je puisse dépenser mes euros en euros et peut-être plus en couronne. Mais je pense que la communauté existe, à la fois intellectuelle, à la fois géographique. Il faut 1h15 d'avion pour aller à Prague, et il faut 1h30 d'avion pour aller à Barcelone. Donc pour moi, c'est tout à côté. Et je terminerai par dire que la position très centrale européenne de la République tchèque entre l'Ouest et l'Est fait que c'est un intermédiaire indispensable entre le monde de l'Est, le monde de l'Ouest, le monde du Nord et le monde du Sud. La République tchèque est exactement au milieu de ce triangle magique qui est Budapest, Prague et Vienne. Donc c'est comme tous les triangles magiques, ça donne la vie, ça donne la joie et ça donne le tonus surtout. On a besoin de beaucoup de charisme et de tonus en Europe.
La fondation qui a remis le prix à Bernard Charpentier, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, créée en 1992, porte le nom de Karel Pavlík, patient ayant subi en 1966 la première grève du Rhin réussie dans l'ancienne Tchécoslovaquie.
Les émissions en langue française de Radio Prague sur ondes courtes, c'est terminé, mais les émissions de Radio Prague continuent évidemment sur le web, en retranscrit. Notre adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.